Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Surtout les élèves de première année, parce qu'ils ne se connaissent pas. Et c'est pas facile de lier connaissance avec des personnes lorsqu'on a un poids du temps aussi chargé et des journées aussi longues. Mais quelquefois, on arrive à se dire deux ou trois mots. Nos deux amis sont ensemble. Ils voient les autres comme des fils à papa. Les cours sont très intéressants, mais ardus. Ils y arrivent tout de même. On parle de l'évolution des espèces, de Darwin, de l'ADN, des greffes, des mutants, etc., etc. Le but, c'est la transformation des espèces végétales et animales pour le bien de l'homme. Au plus tard, peut-être déjà, la transformation de l'homme. L'homme, comme toutes les espèces vivantes, lui aussi, change physiquement, intellectuellement. Il mute à cause de son environnement, des attaques, de nouvelles attaques que reçoit son corps. Les grandes catastrophes, épidémies font muter l'homme et le rendent plus fort. C'est une bonne chose aussi. Mais hélas, c'est la vie. Il y a un trop grand nombre d'hommes qui ne mutent pas et qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas muter pour se défendre des catastrophes du genre nucléaire ou autre. Alexis Mathieu parle souvent de ce qu'ils apprennent dans leur chambre. Ils se demandent ce qu'est la vie. Comment un amas de chair, de sang et d'eau peut créer la vie, la pensée et Dieu? A-t-on besoin de Dieu pour créer le monde? Et pourquoi Dieu l'a-t-il créé? Voilà les questions à quoi réfléchissent nos amis. Et il y en a pour des heures, des années, pour trouver un semblant de réponse. Les jours passent. Avoir des jeunes gens comme ça, rien que des garçons, ça doit être dur. Oui et non, parce qu'ils sont très occupés. puis Alicie Mathieu sont ensemble. Pour eux, ça leur est plus facile. Et puis malgré eux, ils sont attirés l'un par l'autre, d'une façon respectueuse. Mais Alexis rêve souvent à son ami. Dans ses rêves, il touche, caresse. Lui donne des baisers. Il y enfonce ses doigts dans ses cheveux. Lorsqu'il le voit, il ne lui fait rien. Il reste près de lui et c'est tout. Les fêtes de la Toussaint arrivent enfin. Ils ont 15 jours de vacances. Ils sont heureux. Ils sont heureux de rentrer. Après le petit déjeuner, ils quittent l'école, habillés avec les habits de l'école. Cela fait de la pub pour l'école et en même temps, cela empêche l'élève de faire des bêtises. Parce que il se rappelle ce qu'il est. Ça le protège des autres. C'est un peu comme faisait la soutane pour le prêtre. Même si un prêtre, s'il avait envie de faire une chose, disons, par exemple, aller voir une pute, il ne pouvait pas parce qu'il était habillé en prêtre. Et ça lui rappellerait aussi ce qu'il était et aux autres ce qu'il est. Ils sortent de l'école. J'ai l'impression c'est de revenir dans long voyage. D'être parti à des centaines de kilomètres de Paris. Et de se retrouver dans une ville. Le domaine de l'école est très grand. Il y a des champs, des écuries, une ferme, de grands espaces. C'est énorme, on se croirait à la campagne. Bien entendu, tout ça, ça sert pour les expériences, pour les études. Le bruit de la ville, les voitures, l'odeur, la santé, tout ça les étourdit. Et en plus de ça, ils doivent prendre les transports en commun. Tu sais, il faut prendre le car, le métro. Ils sont bousculés, ils se perdent dans les couloirs du métro, ça sent mauvais, l'odeur, la santé, les gens sortent, les gens qui vous regardent de toutes les façons. Ils ont presque envie, c'est de retourner se réfugier à l'école. Après le métro, il y a le car. Là, il retrouve Paris. Les rues sales, lugubres, en ruine. après, des détours et des détours. La peur, la fatigue. Ils arrivent à ce qu'ils pensent être leur rue. Ils la trouvent petite, sale, populaire et très triste. Ils avaient oublié tout ça. Regarde la façade de leur immeuble avec effroi. Et oui, c'est bien ici. Ils poussent la porte de l'allée. C'est sombre, ça sent quoi? Monte les escaliers raides et très usés. C'est ici. Un peu sonne à la porte de l'appartement de sa mère. Pas de réponse. Il ressonne plusieurs fois. Rien. Elle lui dit. Elle a dû aller à son travail. Les gens qui travaillent n'ont pas de vacances. Mathieu demande. Qu'est-ce qu'on fait? Elle lui dit. Ben va chez moi. Eh? Il monte jusqu'au grenier. Allez, tu frappes. La porte s'est ouverte. C'est son père en maillot de corps. Le père est surpris. Et s'il dit, j'entre pas. Entrez. Ils entrent. Ferme la porte. Le père demande, vous êtes là? Vous, on est en vacances? Tu ne te souviens plus que c'est à Toussaint? Son père lui dit, moi tu sais les vacances. Venez vous asseoir. Il amène s'asseoir à table. Il le regarde bien, il leur dit, vous êtes bien habillés. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Mathieu lui dit, ce sont ceux de l'école. Vous voulez boire quelque chose? Mathieu lui dit, oui, un jus de fruits. Le père demande, et toi Mathieu? La même chose. Et le père va chercher dans le buffet la boisson. Il n'a pas de réfrigérateur. Et le ramène. Merci. Tiens, merci. Puis, il s'assoit près d'eux. Ils boivent en silence. Le père demande, vous êtes en vacances combien de temps? Et il lui dit, 2 semaines. C'est bien, non? Le père fait la grimace, et s'il le voit, il lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il lui dit « C'est-à-dire que je n'ai plus de travail. Et si vous êtes là, comment je vais faire pour vous nourrir ?» Et s'il lui dit « Je ne savais pas, papa. » Mathieu ne sait où se mettre. Et s'il dit « Je t'aiderai, tu verras. » Nous arriverons à trouver quelque chose à faire pour avoir de l'argent. Mathieu lui dit, moi aussi. Le père dit à Alexis, Mathieu n'a pas besoin de travailler, sa mère travaille. Mathieu lui dit, mais j'aiderai mon ami. Le père lui dit, Madame Poncet donne de l'argent pour l'école. C'est normal. C'est un retour à la vie triste. Le trajet venu jusqu'ici était horrible. Et maintenant, le père s'en travaille. Ils vont être obligés de travailler pendant leurs vacances. Alexis demande, « Et maman ?» Son père lui dit, « Elle est toujours en prison, hélas. Elle s'enfonce. Elle ne parle même presque plus. Elle maigrit. Il faut la sortir de là. La mettre dans une maison de repos. Tu iras la voir. Oui, bien sûr. » Ils ont passé la matinée avec le père d'Alexis. Puis, ils sont descendus attendre la mère de Mathieu. Arrivée sur le palier, lorsqu'elle les voit, elle leur dit, « Ça fait longtemps que vous attendiez ?» Mathieu lui dit, « Non, nous sommes allés chez Alexis. » Elle lui dit, « Je suis confuse, mais pas de vacances pour moi. » Elle les embrasse. La porte de son appartement. Entrez. Ils entrent. Ferme la porte. Allez au salon. Je vais ranger les provisions à la cuisine. Elle est arrivée avec un sac à provisions en toile cirée noire. Ils vont au salon s'asseoir. Et attendent. Elle arrive, vient vers eux. Vous désirez boire quelque chose? Étienne lui dit, non merci, nous avons déjà bu. Mathieu lui dit, moi aussi, merci. Elle s'assoit en face d'eux. Et leur dit, les temps sont durs, tu as su pour ton père? Oui. Et elle lui dit, il travaillait chez un charpentier qui était mis en faillite. Son patron a dégringolé d'un coup parce que Franblanc a appris que sa fille avait eu une aventure avec un jeune homme et que ça s'était mal passé, mal terminé. La jeune fille a failli être agressée par lui. Il lui a dit que c'était faux. La pauvre fille a voulu porter plainte, etc. Et lorsque la Franblanc a appris qu'il y avait une histoire comme ça, chez eux, elle a tout stoppé, toutes les commandes, et ne veut plus entendre parler de lui. Et il s'y dit, mais ce n'est pas la faute du père. Si sa fille a été agressée, elle lui dit, la Franblanc ne veut que des gens irréprochables. Le moindre soupçon, ou même si la personne est nommée comme témoin dans une affaire, la Franblanc n'en veut pas. Et s'il lui dit, c'est dégoûtant. Elle lui dit, oui. Surtout que sans la Franblanc, pas de travail. Mathieu dit, je ne savais pas que Gilbert est comme ça. Elle lui dit, il paraît que ce n'est pas les Franblancs qui sont comme ça. Ce sont des gens très bien, eux. Mais c'est le groupe qui est comme ça. Triste vacances pour nos deux amis. Ils sont obligés de chercher du travail et ce n'est pas facile. Ils arrivent à laver quelques vitres, nettoyer des logements, aider à faire des déménagements. Des fois, au marché de légumes, ils font les étalages. Pour les payer, la plupart du temps, on les paye en nourriture ou vieux objets qu'ils essayent d'écouler. Les journées sont pénibles pour eux, surtout que le soir, ils doivent réviser leurs cours. Ils le font ensemble dans la chambre de Mathieu. La mère de Mathieu, la journée, travaille. Ce mois-ci, elle fait la journée complète. Le père d'Alexis cherche du travail. Vous me direz pourquoi est-ce que le père n'en trouve pas alors que son fils se débrouille pour en avoir. C'est à cause de l'âge. Et puis les gens ont peur qu'un adulte leur demande plus. Alexis est allé voir sa mère. Elle l'a à peine reconnu. Et lui aussi l'a à peine reconnu. Elle est maigrie, vieillie. Le regard aigri et triste. Elle lui a dit tout juste deux mots. Il la quitte effondré. Il dit à son père en entrant, « Faut faire quelque chose pour elle. » Son père lui dit, « Et quoi ?» Et il lui dit, « Voir quelqu'un pour l'aider, un avocat, je ne sais pas moi. » Son père lui dit, « Moi non plus. » Alexis, le soir, dans la chambre de Mathieu, lui dit, il faut que je fasse quelque chose pour ma mère. Mon père ne fera jamais rien. Mathieu lui dit, attention, tu as entendu ce qu'a dit ta mère. Si le groupe sait que tu as ta mère en prison, il va te renvoyer. Et adieu le travail. Nous allons nous retrouver SDF et dans une décharge, une balle dans la tête. Ne faisons pas de vagues. Et ici, il lui dit, pour mon avenir, il faut que ma mère reste dans les oubliettes. Et ici, prend le temps d'aller voir Madame Poncet. Elle le reçoit pour le thé. Lui pose des questions sur ses cours. Elle lui dit, c'est une très bonne école, il faut bien travailler, mais demande d'entrer dans une entreprise pour toi, pas une autre, t'as bien compris? Alexis, en la quittant, tombe sur Nathalie. Elle rentre chez sa mère. Elle lui dit, « Bonjour Alexis, comment allez-vous » Elle lui dit, « Pas très bien. J'ai ma mère qui est en prison, mon père au chômage. Mon père est au chômage à cause des francs blancs. » Elle lui dit, « Je ne savais pas que vous aviez des ennuis, des besoins d'aide. Allez, au revoir. » Et elle entre chez sa mère. Le temps est triste, il fait du vent, les feuilles tombent, il pleut souvent. Un vrai cauchemar, ces vacances de la Toussaint. Ils sont tout de même heureux, c'est de rentrer à l'école. Adieu. La misère. triste. Ils ont vite dit adieu. Ça a été vite expédié. L'école est devenue leur domaine. Et puis à l'école, tout marche comme sur des roulettes. Les gens sont propres, polis. Il n'y a pas de chômeurs, de malades. Le décor est élégant et même gai. Il est même gai malgré le mauvais temps. Et puis on parle de choses sérieuses. Intéressantes. On se pose des questions hautes, fortes. L'école, c'est leur monde, le monde. Le monde, celui de la barbarie, des émeutes, la santé, c'est l'autre monde. Donc ils sont heureux de retrouver l'école, leur cours. Les jours passent et ils sont bien notés. Les deux garçons sont bien notés. Ils sont très bien notés. Ils font tout ensemble. Des fois, on organise des fêtes entre élèves d'école. Il y a quelques élèves de l'école, un groupe qui organise une soirée, demande au proviseur la permission de le faire. On leur propose la salle des fêtes et les cuisines les aident. Ils organisent la fête, les invitations à tous les groupes, la musique, seront des disques, ou soit un groupe de l'école. Pour la fête, elle se fait de préférence le samedi. Les professeurs et les gens du service, les membres du personnel, sont invités. La fête a un petit côté bizarre, parce qu'à deux ou trois exceptions près, il y a très peu de filles. Alors on danse entre nous, entre hommes, ou jeunes gens si l'on veut. C'est très étrange. Dans ce milieu fermé, il y a quelques, disons, amitiés un peu fortes. La direction ferme les yeux pour ce genre de choses. Ils se disent qu'il faut bien que jeunesse se passe. Et elle se fait. Puis ça ne va pas bien loin. La timidité, la politesse et l'emploi du temps. Très chargé. Les cours leur laissent peu de temps libre. Il n'y a jamais entre les cours de crise de jalousie ou autre. Personne n'a cherché à se mettre entre deux amis. Et personne ne parle de tout ça. La vie sentimentale des gens reste privée et secrète. C'est mieux ainsi. Les chambres restent libres. Les surveillants surveillent de loin sans intervenir. Mais les chambres restent lieux privés et secrets. On n'y rentre que lorsqu'on y est invité. même si on est très bien. Et dans ces chambres, il n'y a pas grand-chose. Pour Alexis Mathieu, ils ont l'habitude, c'est de se voir tout le temps comme ça depuis toujours. Alors ils continuent. Personne ne leur en fait la réflexion. Et puis il n'y a rien à dire. Ils restent bien ensemble. Dans ce monde clos, où il n'y a que les cours qui sont passionnants, alors tout le monde travaille. C'est fait un peu exprès. Comme ça, il n'y a que les études pour s'occuper et étudier. Alors on passe son temps à étudier. Le temps passe. Le temps passe vite parce qu'on apprend beaucoup. Le corps se développe aussi, tout doucement. Judith se renseigne sur eux. C'est ce qu'ils font. Elle sait qu'ils ont de très bonnes notes. Un jour, Harold lui demande, lorsqu'il la voit dans son bureau, « Pourquoi est-ce que vous intéressez à ces deux jeunes gens ?» Elle lui dit, « Ça doit vous plaire, non ? Ils sont beaux garçons. » Il lui dit, « À vous aussi, vous ne négligez pas les jeunes garçons, à ce que l'on m'a dit. » Elle lui dit, « Ça, c'est ma vie privée. Je m'intéresse à eux parce que je sais qu'ils sont, sans s'en rendre compte, qu'ils sont des nôtres. Et qu'il faut aider des gens comme eux, et qui peuvent aussi nous être utiles pour plus tard. » Harold lui demande, « S'ils sont des nôtres, alors pourquoi vivent-ils ? Viennent-ils d'un milieu si quelconque ?» Elle lui dit, « Des fois les roses poussent dans le fumier. On ne sait pas pourquoi. » Et puis, la poncelle a remarqué, c'est bien qu'ils ont quelque chose. Elle, si au-dessus de tout, qui nous prend, même nous, pour des rien, des parvenus, elle a jeté son dévolu sur le fils de sa femme de ménage. Harold lui dit, vous avez sans doute raison. Et puis, ils sont très beaux garçons. Pour ce qui est de la pensée, il faudrait peut-être nous en occuper. Elle lui dit, elle ne nous gêne pas, et on ne peut pas, à cause de ses origines. Et puis Gilbert est amoureuse de sa fille, donc la famille est sacrée. Il lui dit, on pourrait, c'est éliminer la mère et protéger la fille. Elle lui fait, oh non! Au nom de ce qu'elle représente et de l'histoire, on ne peut pas. Et puis, elle ne nous gêne pas. Elle grogne chez elle, assise dans un fauteuil près d'une fenêtre, et n'a que sa fille, seulement que sa fille. Les jours passent. Chaque fois qu'ils retournent chez leurs parents, ils se sentent étrangers à eux. Le quartier, la rue, qu'ils connaissent, ils ont l'impression que ce n'est pas eux. Ils se sentent mal à l'aise dans leurs anciennes vies. Parce que l'école est un monde clos, avec son règlement, sa façon de vivre. La vie y est réglée comme du papier à musique. Presque tout y est prévu. L'ordre règne. la propreté aussi. Tout le monde est bien habillé, poli et avait des sujets de conversation intéressants. On ne se dit pas en se voyant « Salut, ça va, beau temps ?» Non, l'on parle des derniers cours, des films que l'on a vus, etc., etc. Et puis, tout y est plus simple. On a tout. Les élèves comme les professeurs sont beaux, ont de l'intelligence. Il y baigne dans ce monde clos une harmonie, une belle harmonie entre le décor, les gens que l'on rencontre, que ce soit les élèves ou les enseignants. Ça a été étudié. Les élèves sont la plupart des jeunes gens issus de familles aisées, de professions, fils uniques, de préférence fils unique. Mais ils peuvent provenir de jeunes qui viennent de maisons, disons, officiellement d'orphelins. Mais nous savons que ce sont des enfants volés qui ont été sélectionnés soit pour leur organe, intelligence ou beauté. Ils ont eu des tests. Ces jeunes gens ont passé par une porte durant leur enfance et on les a mis dans une maison. Voir Imami l'élu. Ils ont été éduqués pour pouvoir entrer dans une de ces écoles de formation de cadres pour le groupe Franc-Blanc. Ils ont reçu une éducation très forte de savoir-vivre. En plus de l'éducation officielle. Comme ça, il n'y a pas de différence entre les fils à papa et eux. En fait, les personnes les moins fortunées sont nos deux amis, qui eux vivent d'un milieu défavorisé, n'ont pas reçu d'éducation qui les mette au même niveau que les autres, pour le savoir-vivre. Malgré tout ça, ils s'en sortent assez bien. Ils apprennent à se servir de leur couvert, à jouer au tennis, golf, à faire du cheval, etc. À évoluer dans le monde. Et puis, ils sont très beaux. Et leur beauté leur fait pardonner leur gaucherie. Ils ont aussi une élégance naturelle qui les aide. Quelques garçons essayent de leur parler, mais comme ils sont souvent ensemble, on n'ose pas les gêner en se mettant entre eux. À l'école, ils ne sont pas les seuls à être, disons, en couple, mais d'une façon pure. La jeunesse, la beauté des visages et des corps permet l'inimitable des aventures amoureuses. La plupart du temps, elles restent pures. Le directeur d'établissement ferme les yeux sur ces relations un peu trop tendres. Parce qu'elle ne gêne personne, personne ne le sait en dehors de l'établissement. C'est une chose de la vie intérieure de l'école. Et puis, on préfère que les choses se passent entre les élèves que s'ils allaient ailleurs, ce qui risquerait de créer de grandes difficultés pour l'école et les familles. Personne ne le sait et personne ne le saura, car ça ne risque pas de nuire à la personne plus tard. Bien sûr, dans les dossiers de l'école, dossiers secrets, l'on marque tout. Le bulletin de notes, santé, comportement, goût, humeur et aussi rapport intime. Mais personne ne lira le dossier à part le groupe Franc-Blanc. Et comme le groupe Franc-Blanc, il y a Carole et rien d'autre qui a la mission de leur lire, il sera le seul à connaître les faiblesses des personnes. Peut-être est-ce que ces faiblesses rendra plus sympathique la personne et que ça pourra être utile pour certaines affaires. À l'intérieur de l'école où l'on étudie, se cultive, se détend, fait l'apprentissage des relations humaines, et ceci dans un lieu privilégié où il n'y a pratiquement aucune contrainte, ce mont clos, vous passez des mois enfermés, disons dans ce monde, et la Franc-Blanc, le groupe, fera toujours en sorte à ce que leur cadre employé et l'entreprise aient l'impression que le vrai monde est leur monde à eux, celui de leur entreprise. Plus le personnel se trouvera bien chez lui, dans le groupe, plus il défendra le groupe qui deviendra sa famille, son monde. Il n'aura jamais envie de le quitter et fera tout pour le défendre. Et tous les membres de groupe feront partie de sa famille. Les patrons ont tort de penser qu'il est bon de diviser les gens pour régner et qu'il faut pousser les gens à les inciter les gens à évoluer, à monter en s'attaquant aux autres. Ceci crée une tension, empêche le bon travail. Tout le monde se regarde de travers, au détriment de l'entreprise. L'entreprise devient un champ de bataille au lieu d'être un lieu où l'on est bien, où l'on s'entend bien. Plus l'on est bien, plus l'on cherche à défendre son bonheur. Et pour défendre son bonheur, il faut se défendre et tout faire pour que l'entreprise marche bien. On donne toute son énergie à l'entreprise et non à ses ambitions personnelles comme c'est le cas maintenant. Une fois que l'on rentre dans le groupe Franc-Blanc, que ce soit par l'intermédiaire d'une école ou directement dans l'entreprise, on rentre dans un monde clos où tout est prévu et où le groupe se coupe de vous jusqu'à votre mort. Il vous donne du travail, vous loge, vous permet de vous soigner à très bon prix, vous offre des camps de vacances, colonies de vacances, maisons de repos, maison pour vos enfants, école pour vos enfants, maison de retraite et même jusqu'à l'incinération. Il y a des supermarchés, des lieux de sport, culturels, vous aident si, et vous préparent le mariage si vous mariez entre gens du personnel. Il y a crèche, gardien d'enfants, maternelle, des écoles jusqu'à la fin des études, pour des diplômes de cadre pour l'entreprise. connaissent les élèves qui sont capables et les embauchent. Il y a bien entendu, pour se faire soigner, la clinique Riquin a un prix très avantageux. Sans compter les chaînes de télévision et de radio, par câble, etc., etc. Et les voyages aussi. La compagnie de transport, vous pouvez voyager à un prix très avantageux. Voilà pour le groupe Franblanc, dont le groupe Pontois appartient. Et nos deux amis sont entrés dans ce monde à la Disney, où tout est là pour les aider. Un monde où ils vivent dans des villages, petites villes, près des grandes villes. Ces villages, petites villes, où il y a de tout, sont gérés par Franblanc. Ils n'ont pas de maire, il n'y a que des cadres ou des gens qui s'y sont des gens du groupe. Tout le monde peut y habiter. On prend un contrat à Franblanc et en plus de la maison, de l'appartement, ils ont droit aux services comme dans un centre de village. Et tout est géré et toutes les choses sont fait par les employés Franblanc, même la police est privée. Le groupe Franblanc et toutes les entreprises qui font partie de ce groupe ont accès à ce monde. Ce qui fait que chaque groupe apporte son plus. Pontois apporte les supermarchés alimentaires, pharmaceutiques, les ordinateurs, les chaînes de télévision, radio, le groupe Jeune Tout, les transports, avions, bateaux, etc., la biotechnique, les chimères, mutants, la médecine, les ordinateurs bio. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.